Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, c'est ta mère.
De l'amour.
Moi, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir, bonsoir, et voilà le début du 76e épisode de L'œil carnivore, et oui, tout ça, l'accouchement fut très difficile, on est tous confinés, voilà, on aurait dû commencer il y a 7 minutes, je sais pas pourquoi, tout d'un coup ce qui fonctionnait tout à l'heure ne fonctionne plus, mais on a fini par réussir à faire passer le générique, au moins, on verra pour le reste du son.
Au moins on a le générique.
Au moins on a le générique, donc ça c'est bon. Et en plus, bah, y a plein de monde autour de la table virtuelle ce soir. Alors je vais commencer par Ergus qui est parmi nous. Hein, voilà.
Salut.
Coucou Ergus, salut, fais-nous un petit coucou. Voilà, on a aussi Baudouin qui est avec nous.
Salut.
Coucou, salut Baudouin. On a Laurane aussi, salut Laurane.
Bonsoir tout le monde.
On a Monsieur Luc qui a même réussi à mettre son logo sur
sa vidéo.
Bravo. On a Sam qui est aussi parmi nous.
Salut
avec son t-shirt BXL Geek. Et d'ailleurs, Laurane aussi a son t-shirt BXL Geek. Et t'as t'as un Dragon Slayer derrière toi.
Ouais.
tu vas faire des jaloux là quand même. Et puis, on a aussi nos deux invités. On a Saïd qui vient nous parler de résistance Covid. Donc, salut Saïd.
Bonjour.
On va expliquer ce que c'est tout à l'heure, tranquillement. On va avoir un peu de temps pour ça. Et puis, on a aussi Stéphane qui est ici. Et c'est le capitaine du Love Boat. Hein, c'est ça ? T'es le capitaine du Love Boat ?
C'est ça, tout à fait.
Tout à fait. Et en tant que bon capitaine... En tant que bon capitaine, bah, tu vas nous présenter déjà le Love Boat. Qu'est-ce que c'est ? Qui nous héberge ce soir ? En tout cas, moi, je m'y sens bien. J'aimerais bien réussir à faire jouer un petit son. Donc, vas-y, dis-nous. Et puis, je vais essayer de faire jouer un petit son derrière. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on verra.
Ça marche. Donc, le Love Boat ou l'anti-Corona Virtual Express, c'est très, très long. C'était le premier nom. On s'est foiré sur le premier nom. On se foire toujours sur le premier nom. Donc, le Love Boat, comme on l'appelle, c'est un channel Discord qui, au départ, était parti sur jouer, permettre aux gens de jouer ensemble durant la crise du corona, et qui au fur et à mesure s'est développé. Il s'est ensuite équipé d'un salon help pour que les gens puissent dire quand ça n'est pas bien, pour qu'on puisse les aider. Et puis ensuite, il s'est équipé d'une radio en ligne qui joue tous les soirs, généralement entre 18h et 19h jusqu'à minuit. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils jouent? C'est les gens même du Love Boat, c'est ceux qui sont là, présents sur le canal, qui proposent des émissions et qui font présenter leur musique, ce qu'ils aiment, etc. Donc il y a plein d'émissions différentes, il y a un foisonnement de musique, de son et d'histoire qui arrive. Il y a du jeu de rôle, il y a quoi d'autre? Et maintenant, depuis hier soir, on a du cinéma. On diffuse des scènes commentées commentées par une personne qui s'y connaît très très bien en cinéma. Pour les connaisseurs, Daniel Bonvoisin, il y en a deux qui le connaissent ici. Et puis ensuite, et là on prépare pour les semaines à venir un espace éducation permanente avec des cours sur comment faire son potager chez soi.
Chouette.
Voilà. Ouais, hein, c'est classe ça. Et puis on va voir pour développer d'autres trucs, sans doute un GN. On a juste parlé là, donc pour l'instant c'est dehors du projet, mais on va peut-être bien faire un GN.
Oh, nice.
Voilà. Donc c'est ça. L'anti-Corona Express.
Et alors comment on fait pour monter à bord du Love Boat?
Il suffit d'avoir une invitation, hop, j'en viens dans mes trunes. Oui, Stéphane Bruxelles écrit comme un gothique, c'est moi. Je vais dans mes trunes sur le salon de Le Carnivore sur Twitch. Yes. Il suffit d'aller chercher sur Facebook Stéphane Gauvry, où on me trouve, ou le Love Boat. Je pense que maintenant il y a plein de publications qui sont faites avec hashtag Love Boat ou hashtag That Bottle Rock. Donc il y a moyen de nous trouver. Voilà, avec ce hashtag là, je pense que je vais le mettre en visible maintenant, mais on va se faire. Donc c'est ça, hein, tout simplement, hein, on va pas augmenter. Il y a Tatsu qui me prévient qu'il y a plein de monde qui arrive. Voilà, ça c'est sur Facebook, avec Slash Lag, vous pouvez nous trouver également. Et puis de toute façon, le truc va encore grossir, se développer. Il y a plein de jeux hein, qui sont proposés. Il y a du WoW, il y a du Reign of King, il y a du Don't Starve Together, etc.
Il y a oui, j'ai vu qu'il y a... En fait, en gros, si on est un peu tout seul dans son coin et qu'on a besoin de partager plein de choses et de faire des gros câlins à plein de monde, eh ben, c'est l'endroit où il faut aller.
C'est ouais. ça, complètement.
Mmh. Exactement. Donc, eh ben, on va continuer avec Saïd. Saïd, donc, tu fais partie de Résistance Covid, c'est ça? Donc c'est bien ça. Alors c'est Sam qui m'a d'abord ouais. parlé de vous il y a ça quelques mois sinon il y aurait eu un problème. Donc j'ai plus une à deux semaines, j'ai vu des posts Facebook parler de ça et puis bah il m'a dit ouais ça serait bien qu'on invite quelqu'un de Résistance Covid dans l'œil carnivore, donc d'où le fait de l'émission ce soir. En plus, il y avait Luc, donc Luc qui est ici, Monsieur Luc, qui nous avait fait quelques sujets dernièrement sur l'impression 3D. Et donc, Résistance ouais. Covid, je vais le dire avec mes mots, et puis toi, tu vas enchaîner avec en présentant mieux, je pense. Mais en gros, c'est des makers, donc des gens qui savent utiliser, on va dire, l'impression 3D, et puis peut-être les découpes, les différents outils qu'on peut trouver dans un Fab Lab pour venir en aide aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmières, etc. C'est ça ?
C'est bien ça. En fait, au départ, on s'est réunis à quelques-uns. On était deux, trois personnes qui travaillent dans l'IT, un peu geek, certains nerds. Enfin, on a quelques profils. Directement 48 heures après le confinement, en fait.
Ah ouais, bien.
Du coup, l'organisation s'est tout de suite mise en œuvre avec un site web, un groupe Discord, puisqu'on a pensé que Discord était le meilleur outil pour toucher la première frange, c'est-à-dire les makers, les geeks, les bénévoles, et puis tout doucement à s'organiser. Alors, très vite, en fait, la problématique qui est apparue sur Internet, c'est que pour un maker, ben, il y a plein de modèles, il y a des plans, qu'est-ce qu'on doit imprimer, comment, pour qui. Donc évidemment, très vite, on s'est organisé pour à la fois concentrer nos énergies sur quelques plans qu'on peut valider tant avec le secteur médical qu'avec des makers. Donc on imprime chacun de son côté, puis on donne des feedbacks. De là, on fait des tutos. Donc très vite, on a mis en place un wiki complètement ouvert pour l'ensemble des personnes qui y participent. Ça permet aussi de se coordonner de cette manière-là. Et puis très vite, on est passé en deux temps. Alors, dans un premier temps, donc cette phase de préparation, et puis maintenant de la production.
D'accord. Alors justement, moi je me demande quand on est trois geeks, comme tu dis, avec des imprimantes 3D, comment on prend contact avec le secteur médical parce que c'est bien beau de se dire bah tiens oui on peut fabriquer des trucs, mais vous aviez déjà des contacts haut placés dans tel ou tel hôpital qui pouvaient valider ce que vous faisiez, ou alors vous y êtes allé au culot, téléphoner et dire j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse? Comment ça s'est passé en fait?
Alors il y a deux bah, pas, en fait ça s'est passé plutôt vers la demande. On essaie d'éviter d'être proactif. C'est pas notre métier, on est tous bénévoles, on donne notre plastique gracieusement. Et donc on essaie de pallier un problème qui est récurrent, que ce soit dans les services de soins de santé, dans les maisons de repos, pour les femmes d'ouvrage, pour les aides-soignantes à domicile qui en fait sont pas équipées. Pour vous donner un exemple, dans un service hospitalier classique, dans un service d'urgence, les visières, quand on parle des visières, il y a 5 à 6 visières qui est partagé avec 3 shifts de 20 ou 30 infirmières. Donc à un moment donné, quand on est face au Covid, il est préférable que chacun ait sa visière. Et donc c'est là qu'il y a un manque crucial de matériel et on essaie juste de pallier à cette urgence de demande. Alors à partir comment ça s'est organisé, ben surtout de bouche à oreille, de demande, puis à partir des demandes on essaye de chaque fois de laisser des petites notices, des informations pour que les médecins puissent nous renvoyer un retour sur le confort, sur l'efficacité, et ces éléments-là sont repris pour après faire des visières encore meilleures qui correspondent au mieux, en tout cas aux besoins des médecins et des gens qui sont au plus près des patients.
D'accord, mais donc vous aviez déjà quelques contacts parmi les médecins qui pouvaient valider ce que vous faisiez?
C'est ça. Oui. Donc très vite.
Ça a commencé comme ça en fait.
Ça a commencé comme ça. En fait, il y a deux choses. D'abord, alors on est plusieurs à travailler tant sur la conception des visières ou l'impression des visières. Donc pour vous donner aujourd'hui, on est 85 imprimeurs.
Ce qui commence à faire, oui.
Pour plus ou moins 300 bénévoles actifs sur Discord et sur Facebook, répartis quasiment sur toute la Belgique francophone et dans le nord de la France. Essentiellement, on a un groupe très actif sur Paris aussi. Et donc, oui, tout doucement, on s'organise par groupes régionaux pour faciliter la logistique, les demandes, les besoins d'une région à l'autre ne sont pas forcément les mêmes.
Et du coup, votre expertise, en fait, vous profitez de l'expertise de tout le monde, en fait, c'est ça qui est...
On essaye de regrouper, c'est ça, parce qu'il y a un gros problème, un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes de bonne volonté qui s'organisent. Mais il faut bien comprendre que pour l'exemple d'une maison de repos, quelqu'un qui travaille dans une maison de repos va peut-être aller sur 3, 4, 5 groupes Facebook pour demander des visières.
Ouais.
Et donc, on va peut-être se retrouver dans des situations où il y a double emploi ou double impression. Donc, évidemment, très vite, on essaie de coordonner nos forces pour que il y ait un maximum de qu'on sache en fait où on peut aider et qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste encore à faire.
Est-ce qu'il n'y a pas parce que c'est un problème qu'on voit dans toutes les communautés qui existent, quel que soit le but derrière, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autres communautés qui veulent se tirer la couverture
des communautés de makers? Hélas, je ne vais pas citer de nom, mais on a effectivement des communautés qui ont vu le jour grâce à des youtubeurs. Alors c'est bien que des youtubeurs ont une certaine notoriété. Moi personnellement, je suis plutôt actif dans le social. Dans la vraie vie, j'ai pas de compte YouTube, j'ai pas de compte Twitch. Donc je suis bénévole. Maintenant, quand on voit effectivement ça pose de doubles questions sur les données qu'on transmet sur certains sites. La question quand on voit que la collusion entre un YouTuber qui place des produits d'impression 3D et qui après aujourd'hui récolte l'ensemble des données de tous les makers français, ça pose question. Pose effectivement question. Ici, non, justement, on est dans l'idée de d'abord, un, on veut récolter le minimum de données possible, c'est-à-dire qu'on est attentif à ne pas prendre, par exemple, les données de géolocalisation des makers. C'est une ville, une commune, c'est tout. Au moins, on est sûr. Et alors, l'autre côté, c'est que tout est en open data, c'est-à-dire qu'on fournit une clé API. D'autres groupes peuvent se greffer sur cette API, alimenter la base de données, la mettre à jour et venir avec ses propres outils en quelque sorte.
Une API, c'est quoi pour les profanes?
Une API, donc pour une API, donc au lieu de centraliser, donc on peut centraliser des inscriptions d'informations sur un site, sur un portail, mais une API va permettre en fait d'être un outil qui va se greffer sur différentes autres applications, que ce soit une application mobile, une application, un robot Discord, une intelligence artificielle, pourrait se trouver des sources d'informations communes. Et l'API permet de faire ce lien de sources d'informations communes. En fait, c'est comme si on partagerait une base de données avec différents outils en fonction des groupes et des besoins de chacun.
Ok.
Et vous,
si j'ai bien expliqué, hein, n'hésitez pas.
Oui, après. Sinon, vous cherchez sur Wikipédia, mais c'est vrai qu'une API, ça permet en gros de communiquer. Chacun peut aller chercher ce qu'il veut au niveau information, quoi. C'est ça, en gros, d'après ce que
c'est
je
sais.
Et c'est une interface simplement web sur laquelle on se connecte, quoi. Vous œuvrez sur la Belgique et la France. Comment ça se passe, en fait, ou seulement la Belgique, ou...
On œuvre pour l'instant, on a même des bénévoles aujourd'hui, même du Brésil, qui sont en train de traduire certaines pages du wiki en portugais brésilien. Oui, on a un gros groupe sur la France, Île-de-France, Lille, nord de la France. On a quelques makers quand même inscrits sur Marseille et autres, mais l'activité est très essentiellement nord de la France et Belgique. Alors, en Belgique, On a des groupes bien représentés dans le Hainaut, Charleroi, Namur, Luxembourg, toutes les régions sont bien représentées, en tout cas dans les régions francophones.
Wow.
À Bruxelles, on est une quinzaine de makers. Et alors, on a aujourd'hui pu sortir, rien que pour Bruxelles, presque 500 visières de ce qu'on a pu comptabiliser de notre côté. Et en plus de cela, vous avez peut-être vu à la télévision passer aux informations les fameux masques qui sont utilisés pour les aides-soignants, les masques Décathlon.
Les masques Décathlon, ouais.
C'est ça, dans lequel ils branchent des filtres FFP2. Et bon, les adaptateurs ont été pour la moitié produits par Résistance Covid.
Tiens, j'ai une question à ce propos pour ces masques-là. Alors, je ne sais pas si c'est la presse qui s'en mêle les pinceaux ou quoi. Ils parlent de ces masques pour en faire des respirateurs. Alors, j'ai vu deux types d'utilisation. Soit on les prend et alors on fixe un filtre FFP2 sur le dessus du masque et dans ce cas-là, ça sert aux aides-soignants. Et comment ça se passe pour quand c'est un respirateur? Parce que la pièce manquante du respirateur, c'est la pompe en fait. Enfin,
C'est ça. En fait, si vous voulez, la première pièce Décathlon qui est sortie, c'était les Italiens qui l'ont sortie pour adapter avec un double flux d'air. Pour l'adapter sur un respirateur, et c'était en Italie. Par contre, entre-temps, c'est pas forcément ce qui est recherché ici en Belgique. En Belgique, ils se sont appuyés sur les Tchèques qui ont généralisé le procédé, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des masques de type masque à oxygène, tant les masques de plongée que les masques de pompiers. Les masques de pompiers, d'ailleurs, nous avons imprimé des pièces compatibles masques de pompiers de Bruxelles. On a 140 masques de pompiers de Bruxelles qui peuvent fonctionner et être adaptés avec des filtres FFP2. Ici, c'est vraiment pour le corps médical. Chaque médecin qui est en contact direct avec des situations Covid, donc des situations graves où il faut intuber, où les risques aérosols sont vraiment très élevés, alors il préfère donner au médecin un masque intégral avec un filtre FFP2. Chaque médecin a son propre masque pour garantir l'hygiène de celui-ci. Et comme ça, ils peuvent quand même fournir une certaine sécurité, une sérénité pour les aides-soignants qui sont en première ligne. Mais ce n'est pas pour les... Ici, en tout cas en Belgique, ce n'est pas des pièces que nous avons façonnées pour des respirateurs. Aussi, la question, malgré tout, c'est que, je tiens à le rappeler, le travail qui a été mené, c'est un travail en collaboration avec l'hôpital Saint-Pierre, avec des architectes, le réseau d'architectes bruxellois, le Fab Lab de l'ULB... Et donc, tous ensemble, on a pu produire en 48 heures 140 masques, enfin 140 adaptateurs pour des masques. Et ce travail a permis aussi d'avoir un retour positif, parce que aussi il y a une certaine qualité à avoir, une valve ou un adaptateur qui va sur ce genre de masque. Il ne faut pas que ça fouille, il ne faut pas que ce soit mal fait. Donc, c'est important d'avoir un retour pour nos makers et qu'ils puissent adapter les techniques si besoin.
C'est clair. Et Luc, toi qui a quand même deux imprimantes dans ton
chez moi, toi. Moi j'en ai que deux, mais moi je suis. Enfin, j'ai participé à un moment étant en recherche en fait matériel comme beaucoup de films PVC pour pouvoir faire ce fameux masque de protection. Donc c'est pas des respirateurs, c'est juste des masques de protection.
Des face shields, ouais.
Voilà. On en arrive souvent à se retrouver seul à se dire ouais mais moi j'ai pas ça, j'ai pas des pièces de base comme justement ces bêtes films transparents. Alors on regarde à gauche à droite et en fait on se rend compte que on est genre 30 dans le même arrondissement à chercher les mêmes et on se rend compte qu'il y a des choses en plus qui sont déjà mises en place et bah voilà l'exemple. De ce que ça donne quand c'est assemblé, donc c'est tout bête. Hein. C'est une feuille de plastique.
Est-ce que tu peux remontrer un petit peu, Saïd ?
Oui, alors voilà, c'est assez simple. Alors, le plus simple possible, c'est un modèle open source fait par un Suédois. Et en fait, la particularité, c'est que vous pouvez, ça vient se clipser un film plastique A4 dans lequel on va perforer des trous. Alors, c'est difficile à voir à la caméra.
Oui, mais on voit.
Et puis après, on va fixer sur la structure qui, elle, est imprimée, qu'on l'appelle avec son doux mont moustache. Donc ça, c'est la visière moustache. Et donc, on va pouvoir changer la visière du film A4. Donc, on peut utiliser tant des films transparents de phare, des films transparents de projecteur. Au plus il est épais, au mieux c'est.
Ça se met comment? Ça se met au-dessus du, en dessous du nez, en fait, pour protéger les yeux? Quand ça se...
Non, ça se met au niveau du front. Ça doit couvrir ton visage.
D'accord. Donc ça remplace vraiment un masque en fait.
Ouais.
C'est pour te protéger en fait des projections, comme évidemment les gens étant contaminés tous énormément, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des projections qui volent jusque dans ta figure.
Parce que les...
ça protège les gens qui sont en contact ou qui pourraient être en contact éventuellement.
Parce que les gens pensent souvent à se protéger le nez et la bouche, mais en fait les yeux aussi.
D'accord.
Et ça, c'est couplé avec un masque chirurgical. Donc après, l'intérêt, c'est de pouvoir évidemment au maximum protéger les yeux et la bouche.
Voie respiratoire. Mm-hmm.
Ouais. Voilà. Et donc, comme ces réseaux se mettent en place, on finit par se parler et à être en communication. Donc moi, j'étais en communication avec Xavier, je pense, qui s'occupait notamment de Bruxelles et du Brabant wallon. C'est divisé par secteur pour plus de facilité. Et alors, les demandes arrivent, sont gérées, sont dispatchées par des personnes qui regroupent les commandes, qui les envoient ensuite et qui les amènent plutôt aux personnes qui ont fait la demande.
Corentin, tu voulais...
Mais bon, j'avais juste une question de curiosité, mais donc effectivement, Luc parlait des feuilles qui étaient en demande, etc. Moi, j'ai vu qu'il partageait un truc sur Facebook, donc moi j'en avais, donc je lui ai proposé, on s'est arrangé. Mais j'avais une question, parce que tu me parlais du grammage du papier, etc., et je me disais, c'est une feuille en plastique, que ça fasse 200 microns ou 300 microns ou 150 microns, il n'y a rien qui va passer au travers. Donc, quelle est la raison? C'est juste pour que ça fit dans votre structure ou il y a une vraie raison médicale au type de papier qui doit être utilisé?
Non, il n'y a pas de raison médicale. Si on pratique, c'est plus facile à manipuler quand c'est un peu plus rigide et à monter ou à démonter.
Oui, c'est ça.
Et puis alors aussi, principalement, si la feuille, au moindre courant d'air, elle se relève parce que tu as soufflé dessus,
c'est foutu.
C'est pas l'idée, quoi. Donc, si elle est plus rigide et qu'elle peut tenir le coup, s'il y a du mouvement d'air, c'est évidemment beaucoup plus efficace.
Ok. Merci.
Et toi, Sam, qui bosse dans les hôpitaux, tu commences à en voir ou...
Il y a Laurent qui frétille.
Alors, attendez, une seconde avant de lancer tout. S'il y en a dans le chat qui veulent poser des questions, je vois d'ailleurs que la pote à Laurent, tu vas connaître, dit que c'est passé il y a 2 semaines au JT et qu'elle dit que c'est super bien ce que vous faites. Donc voilà, au moins il y a...
Voilà, c'est ma copine Maureen. On peut faire un petit coucou à Maureen au massage.
Voilà. Donc, alors vas-y, Laurent, et après Sam.
J'avais une petite question sur ma résistance Covid, toujours évidemment. Combien de monde ça réunit, cette action solidaire? Est-ce que vous savez estimer plus ou moins, avec les différents intervenants, combien vous êtes au total et qui agit dans ce sens-là? Voilà.
Alors aujourd'hui, sur résistance Covid, au sein du Discord, on est plus ou moins 300 actifs. Une centaine d'imprimeurs. Et répartis un peu partout. Maintenant, là-dedans, le groupe ne fait que gonfler parce qu'on était très présentes. Donc, Discord, je vous dis, c'est le premier cercle. Là, on est sur le deuxième cercle avec Facebook. On réunit de plus en plus d'autres groupes qui ont besoin de se coordonner. Parce qu'au départ, on parlait justement des groupes qui tirent sur la corde. Nous, on n'a pas de vocation à ça. On veut simplement réunir les coordonnées, nos forces. J'ai pas envie d'imprimer... à tout bout de champ, tout et n'importe quoi. Donc du coup, on voit bien que maintenant, c'est devenu un besoin. Tant au départ, il y avait des groupes s'organisaient de manière volontaire, tant aujourd'hui, ils sont acculés par des demandes, ils sont 3-4 imprimeurs, ils se demandent comment ils vont gérer ça. Et donc, ils essayent de se coordonner. Du coup, on se rassemble de plus en plus pour pouvoir répondre ensemble aux demandes. D'accord. Je ne vous cache pas que la difficulté, c'est l'approvisionnement en bobine.
Oui, ça, c'était effectivement une question d'un des auditeurs. Quel est le stock de plastique? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie, entre guillemets, de ces plastiques?
Alors, pour les plastiques utilisés, on utilise en général le PLA qui est un bioplastique. Celui-là, il est vachement encore bien répandu en Europe, en stock. On a encore des fournisseurs en Belgique et en France qui peuvent nous fournir. Mais effectivement, les logistiques sont un peu plus lentes. On a remarqué quand même des ralentissements de logistique par la poste. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ont, même si ça fonctionne encore, pour moi, ça, j'ai un peu l'impression qu'ils ont 3 semaines de retard.
Fonctionnement ralenti, ouais.
Voilà, et donc du coup, fatalement, c'est plus compliqué pour l'approvisionnement en plastique. Alors quand on offre, moi je, personnellement, je, chaque fois que j'offre des visières ou quoi, j'essaie de sensibiliser les personnes à acheter un kilo, une bobine qui coûte une 20aine d'euros, que ce soit une maison de repos ou un CPS, et qu'ils envoient ça sur que ce soit une cellule à Bruxelles ou un groupe à Namur ou peu importe. On a différentes adresses où les bobines peuvent être envoyées et ça permet à ce moment-là à nos imprimeurs de continuer le travail. Un kilo pour à titre d'exemple, un kilo de bobine permet de faire plus ou moins 80 à 90 masques. Wow. Et de 40 à 60 pièces de raccord pour des masques de respirateurs.
Et ça coûte combien à peu près, voilà, un kilo comme ça?
Un kilo, c'est entre 20 et 25 euros.
Ça va.
Ouais, donc ça peut être quelque chose qui est diffusé en masse, et alors n'importe qui, la personne lambda qui n'a pas forcément les moyens de vous envoyer le matos à proprement parler, il peut participer de cette façon-là.
Tout à fait. Il y a des liens, je peux poster quelques liens avec des boutiques qui peuvent même, avec un code promo, faire des réductions pour l'action et qui ont du stock. Donc, c'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche évidemment, ce soit des boutiques en Belgique qui ont du stock pour pouvoir à ce que les makers soient approvisionnés rapidement.
Ah, parce que en fait, j'allais te dire, ce serait bien de faire une cagnotte litchi ou un truc comme ça, mais en fait, ça sert à rien vu que au moment où la cagnotte sera finie, il sera peut-être déjà trop tard pour avoir les bobines, quoi.
C'est ça. On est un peu à flux tendu aujourd'hui. On tourne avec les bobines. Certains tournent déjà sur des bobines qu'ils ont commandées il y a 2 semaines. Donc voilà, oui, ça va plutôt vite. Et bon, à Bruxelles, on dépote plus. Je n'ai pas une vue sur toutes les régions, mais je sais qu'à Bruxelles, les demandes font que croître. En fait, contrairement à ce qu'on pensait, nous, on a pensé tout au début, pour vous avouer vraiment ma pensée, c'est qu'au début, on a pensé se dire, ouais, on s'organise, c'est chouette, on va juste pallier le temps que les industriels et l'État, hein, vont faire quelque chose. Ouais. Que des industriels, bon, on a tellement de métiers qui nous permettent de faire avec des CNC laser et des découpes industrielles, on pourrait faire 4000, 5000 visières à la journée. Et pouvoir équiper tout le personnel, ben 3 semaines plus tard, ben c'est toujours des petits makers bénévoles qui les fabriquent. Et ça, c'est vraiment triste, hélas.
Ouais.
Petit coup de gueule.
Merci. Quand même.
Ouais, justement, je vois Rosine qui demande si c'est pas trop compliqué de gérer la qualité avec le nombre de machines et modèles variés.
Donc, je ne sais pas si tu as compris la question, parce qu'on t'entend un peu de manière...
Donc, Daz Wardy qui disait, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de gérer la qualité avec le nombre de machines et de modèles variés?
En fait, on ne fait pas de sculpture, donc je crois que ça va. Effectivement,
oui, ça a l'air assez robuste et simple, en fait, hein, le système.
On essaye dans des schémas rudimentaires. Pour être un peu technique... Par exemple, ici, on ne va pas utiliser de remplissage. On va faire des épaisseurs de coque plus élevées pour que l'imprimante fasse le moins de déplacements possible et qu'elle fasse plutôt des longues lignes de grosses couches de plastique. Donc, on n'est pas trop dans le détail et la finition ici. On est plus dans l'urgence. Pour vous donner un exemple, les premières visières, on mettait 2h30 à l'impression. Aujourd'hui, on met moins de 50 minutes pour une visière.
J'ai vu un article passer comme quoi il y a des problèmes de certification qui vont commencer à se poser, parce qu'en fait il faut savoir que à côté de ça, en fait ce type de matériel doit avoir une qualité qui vraiment particulière, parce que ça doit pouvoir résister à la stérilisation, notamment aux produits qu'on utilise pour stériliser, à l'usure, des choses comme ça. Et donc du coup, quand c'est produit de manière industrielle, il y a des certifications derrière. Et donc du coup, j'ai vu que la question maintenant se posait avec des hôpitaux qui on avait demandé de refuser du matériel à condition de pas avoir, enfin voilà, ça allait commencer à se poser tout doucement. Je sais pas si vous, ça arrive à vos oreilles, ce type de problème.
On a plusieurs. Bon, il y a différentes choses. D'abord, il y a les visières. Ça dépend de quelle visière on parle. Une visière D'accord. telle que vous la connaissez et que vous la voyez telle qu'on l'a montrée ici, la classique. Vous voyez, elle descend un peu droit. Elle est droite, hein.
Normalement, elle doit s'incliner.
Elle doit normalement s'incliner vers l'intérieur pour recourber en dessous du menton. Ouais. Alors, ces visières-là qui sont recourbées en dessous du menton, c'est plus pour les actes médicaux. Donc fatalement, il y a des visières. Une infirmière qui n'a pas de visière préfère avoir ça que rien. Un médecin qui a un tube, fatalement, lui, il aura la visière professionnelle. Ouais. Pour revenir à la question justement sur l'agrément, sur notre site et dans notre foire aux questions, vous pourrez lire que nous, on marque clairement que c'est pas du matériel médical. Ouais. On n'est pas dans une classification matériel médical et on veut juste répondre à la demande des personnes lambda. Ce sont pas des hôpitaux qui nous appellent, ce sont des infirmiers, okay. ce sont des personnels qui nous appellent et qui se retrouvent un peu démunis face à la okay. situation.
Oui, justement, la question, c'était le public en fait qui utilise ces masques-là. C'est quoi? C'est des infirmières à domicile? C'est des aides-soignantes? C'est peut-être dans des EHPAD aussi ou des trucs dans ce genre-là? Il y a pas des...
Tout ça réunit. Alors, pour vous donner à la grosse louche à Bruxelles, c'est tant la police qui nous a demandé des shields, des CPS, des maisons de repos, des centres psychiatriques, des urgences. Et tout ce qui est donc les centres planning familial aussi, qui sont toujours en service et continuent à faire du travail tant pour leurs personnes qui sont en difficulté, qui doivent suivre à domicile, tant pour les interventions d'urgence. Donc voilà, le public est assez divers. Ouais.
J'en vois maintenant à l'hôpital Saint-Pierre, j'en vois beaucoup au niveau des urgences, au niveau de l'accueil des patients notamment. Maintenant, les gens commencent à porter ce type de visière, quoi.
Parce que oui, c'est la question que j'avais. Sam, toi qui travailles à l'hôpital, tu commences à en voir aussi des visières homemade utilisées.
Ouais. Mais bon, moi, je travaille en laboratoire, j'ai pas de contact avec les patients. Mais je vois quand je passe par les urgences ou quoi, je vois les gens qui en portent pour le triage des patients, quoi. Parce que ouais, t'as un patient qui arrive et qui t'éternue dans le visage, bah si t'as le face shield, bah t'es protégé, quoi. Donc voilà. Mais pour continuer un petit peu sur le coup de gueule de Saïd, le problème est vraiment vraiment réel. Moi, je le vis aussi au quotidien, pas autant que les infirmiers et les médecins évidemment, mais on a des blues par exemple. Je viens de faire une formation pour les dépistages et les technologues ont la même, ils ont une blouse à mettre au-dessus de leur tablier. Ben, c'est la même blouse qu'ils réutilisent tous les jours, quoi. Alors qu'on est vraiment en contact avec le virus. Les masques FFP2, même chose. Normalement, on ne peut les utiliser que 4 heures. On a reçu une dérogation du SPF Santé qui nous autorise à les utiliser 8 heures. Et maintenant, on les utilise jusqu'à ce que le masque soit inutilisable, quoi. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est vraiment.
Ah, d'accord, oui, c'est vraiment.
C'est vraiment un gros problème. Ouais, et là, le personnel commence à tomber malade tout doucement. Donc, c'est.
Oui. Voilà. super. Parce que c'est vrai que voilà, c'est toi qui m'a amené avec cette discussion autour des masques et des protections faits par les makers. Mais c'est vrai que je profitais de ta position en tant que laborantin à l'hôpital pour un peu me renseigner comment ça allait. J'ai vu que tu avais fait des hauts et des bas. Et c'est vrai que ça doit être très difficile à gérer à l'heure actuelle psychologiquement pour tous les on va dire le personnel soignant au sens large, parce que toi t'es pas directement soignant, mais c'est vrai que ça doit être compliqué.
Ah ouais, vraiment.
Ouais.
Enfin, voilà. Donc voilà, non, mais pour... Saïd, j'en profite aussi pour te remercier au nom de tout le personnel soignant de ce que vous faites, c'est vraiment fantastique.
C'est gentil, merci beaucoup.
Je pense qu'il y avait encore une petite question, je suis pas sûr qu'on y ait répondu. Sur le chat, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir comment est la genèse d'un projet pareil.
Bon, ça, je pense qu'on a répondu avant. À mon avis, c'est Rémi de.
Il est peut-être arrivé après. Alors du coup, ouais.
La genèse d'un projet, on peut le répéter en 2 secondes. C'est juste 3 potes qui se sont dit, tiens, on peut aider. Je crois que c'est ça, en gros. Hein. Et puis ça a pris de l'ampleur. Donc bravo. Dans les délais d'urgence comme celui-là. de la crise sanitaire, comment on organise les contacts entre les bénévoles qui vont fabriquer et les pros qui pourraient donner les spécifications. Mais ça s'est fait au fil de l'eau, c'est ça en gros. Hein. C'est, en gros, les médecins vous font les retours pour voir si ça fonctionne ou pas, et vous, vous améliorez aussi le modèle, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Hein.
C'est ça. D'abord, oui, il y a ça. Et puis, on échange beaucoup entre nous. Alors, contrairement à d'autres groupes, je ne vais pas faire de louanges, mais comme on est un modèle un peu, on va dire, tentaculaire, on n'a pas vraiment de structure, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... tout est dans le consensus. Et on travaille avec des lives. On a parmi nos membres des médecins, anesthésistes, des ingénieurs. Et donc, effectivement, on travaille aussi sur d'autres choses que les face shields. Actuellement, il y a des projets en cours avec des, la tentative de vouloir créer des respirateurs artificiels en low dye, pour, tant pour ici, mais aussi pour l'Afrique.
Oui, low dye, c'est-à-dire?
Low dye, donc low tech, c'est essayer de minimiser en fait. Sa fabrication soi-même et avec le minimum de pièces ou de composants trop complexes. Alors ici, on essaye. Voilà, il y a plusieurs projets qui voient le jour. On espère dans les jours et la semaine qui vient pouvoir avoir des premières démonstrations. On est en collaboration avec des médecins qui nous mettent à disposition du matériel médical pour faire ces expérimentations. Parce que aujourd'hui, on n'est pas non plus 10 à travailler là-dessus parce qu'il faut être équipé, il faut se coordonner. Mais oui, on est quelques-uns à travailler sur ces questions de pouvoir aller un peu plus loin que pour nous en fait comme je l'expliquais, le shield était à la base quelque chose qui devait répondre à l'urgence et on s'aperçoit aujourd'hui que l'urgence se pérennise.
Mais c'est vrai que là tu parlais d'aider l'Afrique, en fait on est tellement plus industrialisé, on va dire ça comme ça, on s'est tellement tourné vers le tertiaire que c'est hallucinant. Normalement on devrait être capable de les produire, on devrait être capable de transformer notre industrie pour produire ce genre de choses. C'est pas extrêmement compliqué. Des gens chez eux arrivent à faire ça, alors que ça soit par impression, mais des histoires de moules, etc. Je veux dire, ce que vous sortez comme imprimé, t'en fais un moule et tu le sors en cadence.
Qu'est-ce que des moules viennent foutre dans cette histoire?
Non, mais
je ne comprends pas.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que là, tu peux sortir. Il suffit de faire une pièce maîtresse et tu peux en sortir 36 000 avec une chaîne de production. C'est hallucinant qu'on n'y arrive pas, en fait.
Mais le truc aussi, je me permets juste.
Alors, tu coupes, Luc, vas-y.
La communauté
des makers. Non, trop pas trop loin. Mets-toi à l'aise dans ton fauteuil. Vas-y.
La communauté.
Vas-y.
La communauté des makers en général est beaucoup plus réactive qu'une grande majorité, évidemment, de grosses sociétés qui mettent du temps à réagir, qui attendent des contrats, des certifications, des agréments pour pouvoir commencer des productions en masse. Parce qu'évidemment, quand elles démarrent, il ne faut pas qu'elles essayent et puis qu'on affine au fur et à mesure. Elles attendent d'avoir un truc complètement bétonné avant de lancer 700 000 versions du truc en production. La force et la réactivité de groupes de makers, c'est que comme il y a un panel énorme de profils de gens qui ont des métiers complètement différents, ils peuvent répondre à quasiment n'importe quelle demande très vite et les itérations se font extrêmement rapidement. Avec les imprimantes 3D en plus, les premiers prototypes sortent tout de suite et on peut directement donner ça dans les mains des gens qui vont les utiliser. On a directement un retour, ça change de nouveau, on optimise et c'est parti. C'est quelque chose qui est impossible à faire dans les grosses structures qui s'y mettent lentement maintenant au prototypage de ce style-là, mais c'est encore loin d'être fait et c'est ça en fait la grosse force de ces groupes-là.
Oui, et puis de l'autre côté, si on prend l'exemple des shields, il n'y a pas d'argent à se faire, et je pense que c'est pour ça que les industriels
ne font pas.
Deuxièmement, pour ce qui est des respirateurs, par exemple, en fait, c'est un peu la genèse. On parlait de comment on s'est rassemblés. C'était pas à se dire, tiens, on est confinés, on papote sur WhatsApp. C'était en fait à la base à cause d'un scandale italien. C'est un fichier, je ne sais pas si vous avez suivi la presse avec cette soupape qui a été imprimée à 150 exemplaires pour un respirateur italien et que les entreprises industrielles ont interdit de diffuser sur Internet. À la base, c'est comme ça qu'on s'est rassemblés.
Alors, j'étais pas au courant de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait un copyright dessus et donc les makers n'ont pas eu le droit de le produire, c'est ça ?
En fait, ils ont pu le produire avec autorisation, mais ils n'ont pas pu partager, ils ont pu la produire sur certaines conditions, c'est-à-dire que l'usine n'a pas pu les produire à temps, l'hôpital était en rupture de stock, et avec accord du constructeur, ils ont pu produire la pièce à 150 exemplaires, mais ils ont été formellement interdits de la diffuser. Du coup, ça a duré 2-3 semaines. Aujourd'hui, nous disposons de ces plans de valve et d'autres modèles aussi. Mais c'est parti de là, et le scandale, il est là, c'est de se dire, dans l'open source, moi qui vis dans l'open source au niveau professionnel depuis tout le temps, je suis assez halluciné que ce soit un domaine qu'on a complètement laissé à l'abandon, la santé, tant sur les équipements, l'appareillage, etc., tout est dans le secteur industriel. Et donc les respirateurs, s'ils coûtent 20 000 euros, c'est celui-là qui c'est à cause qu'il y a un manque de respirateurs qu'on a des morts. C'est pas à cause de la maladie elle-même, c'est à cause qu'on n'a pas assez d'équipement et qu'elle se propage tellement vite. En Afrique, la difficulté va être la même. Et pour vous donner un exemple très concret, un respirateur classique d'hôpital va pouvoir fonctionner et coûte 20 000 euros sur des cas très graves. Or, pour un Covid, quand vous êtes mis sous respirateur, ben, il y a différents degrés de gravité et les respirateurs qui sont en cours de développement un peu partout en Europe en open source visent justement à pouvoir capter ces 50 à 60 à 80% de ces patients qui immobilisent des respirateurs professionnels qui normalement pourraient servir pour des cas plus graves. Et un respirateur, ça reste qu'un ballon, on appuie dessus, on le relâche. Et donc effectivement, le travail est mené pour essayer d'en fabriquer, mais évidemment, ce n'est pas un outil qu'on peut sortir du jour au lendemain, dans la mesure où le traitement médical dure jusqu'à 20 jours. Je vous imagine les contraintes techniques que peut avoir ce genre d'appareil. C'est pas le genre de truc qu'on peut sortir en production du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est cette bonne voie que dans les semaines à venir, on ait des respirateurs open source qui vont voir le jour. Et ce qui, à mon sens, c'est une première à une nouvelle voie dans l'open source, dans le médical, dans le pharma.
Mais c'est ça un des gros problèmes du Covid, c'est que en fait les gens sont sous détresse respiratoire, il faut les mettre sur respirateur, mais il faut les mettre sur respirateur longtemps. Et c'est ça un des gros problèmes en fait, c'est que bah, du coup les respirateurs sont monopolisés longtemps. Et donc du coup bah, on en a qui sont de moins en moins disponibles quoi. Et ça c'est vraiment un très gros problème. Mais on aurait pu le voir venir, mais bon, c'est...
on en fera peut-être une autre émission derrière avec 2-3 personnes qui peuvent être renseignées là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est clair.
D'ailleurs, si j'en ai un qui fonctionne, je serais avec plaisir vous le montrer. Hein.
Ah bah ouais, n'hésite pas, c'est vrai que...
J'ai entendu dire un urgentiste intensiviste qui disait que lui, il était aussi assez révolté contre la pénurie de respirateurs en France, et il disait pourtant un respirateur, c'est pas si compliqué que ça techniquement à produire, il suffit juste un bon respirateur, c'est juste un appareil qui va pouvoir insuffler un volume d'air à une pression donnée, et ah ouais, donc ça c'est, ok. Alors...
Là, voilà, je passe.
Excuse-moi, donc je me tue.
Tu peux continuer. Hein.
Ouais. Mais donc c'est ça que le gars disait. Il comprenait pas pourquoi, selon lui, ça avait l'air facile à produire. Il suffit juste d'avoir un appareil qui fournit un volume donné à une pression donnée, à un rythme donné.
En fait, c'est ici, tout le travail est mené sur ce genre d'objet. Ça s'appelle un bavu ou un ballon respiratoire d'ambulatoire, qui est un objet qu'on trouve dans toutes les ambulances. C'est un appareil de réanimation. Celui-là, c'est une version adulte. On a des versions enfants et des versions adultes. Dessus, en général, il y a une soupape de sécurité pour pas exploser les poumons du patient. Et derrière, on a un filtre qui vient capter l'air. Donc, on appuie pour envoyer de l'air dans les poumons et il se regonfle tout seul. D'accord ? L'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a une machine qui vienne appuyer un rythme donné automatiquement. si on compte un rythme classique, si le patient a une vraie détresse respiratoire, il sera essoufflé. Donc on va aller plus vite. Hein. Si on compte ce rythme pour aller plus vite, si on compte une action toutes les 4 secondes, vous êtes à plus ou moins 100 000 mouvements toutes les 24 heures. Ça veut dire que l'appareil qui va, même si c'est un mouvement simple, ça reste néanmoins un mouvement mécanique qui doit durer, qui va faire 100 000 mouvements ouais. toutes les 24 heures sur 20 à 25 jours. Vous imaginez la contrainte ouais. que ça peut avoir.
Ouais, ça doit être très résistant.
C'est ça, ça doit être robuste. Voilà.
Non, non, bah chouette, chouette. C'est peut-être pas ouais. le mot. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je pensais pas que vous étiez, vous alliez sur autant de choses. Heureusement que vous êtes là finalement, parce que ouais. certes, les hôpitaux vont peut-être, j'espère, à un moment quand même recevoir quelques aides, mais il faut pas oublier tout ce qui est effectivement aide-soignant, infirmière à domicile, des choses en genre là, etc. qui, ont pas du tout la même infrastructure que les hôpitaux. Déjà, c'est chaud dans les hôpitaux, mais j'ose même pas imaginer derrière pour tous ces personnels qui se retrouvent à faire ça. Et puis on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi les caissiers, parce que là, à chaque fois qu'on va faire nos courses, on voit qu'il va passer énormément de gens devant eux. Ouais. Et mine de rien, voilà, les éboueurs, il y a eu une épidémie à Bruxelles sur les éboueurs. Tellement ils ont été obligés de revoir la collecte des poubelles. Donc voilà, c'est mine de rien. En fait, toute personne qui travaille en proximité avec d'autres, voilà, il y a pas, ils en ont besoin, quoi.
Ouais.
Voilà, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat?
Alors, dans le chat,
il y avait encore une question, je pense, à laquelle on n'a pas répondu dans le chat, qui demandait si vous aviez eu des contacts avec le gouvernement, si eux vous avez contacté, ou vous aviez essayé de les contacter, ou s'il y avait eu quelconque relation entre votre organisation et le gouvernement, quoi, pour un peu gérer tout ça ou voir ce qu'ils pouvaient faire.
Non, et d'abord, moi, dans notre groupe, on n'en a pas vraiment de personnes qui se sont intéressées à prendre contact avec eux, et inversement, aucun n'a pris contact avec nous. Après, c'est vrai que ça dépend un peu des régions. On a sur Liège, apparemment, la province de Liège, dans un premier temps, a essayé de chapeauter la fourniture des visières et de tout le matériel Covid pour la province de Liège. J'ai cru comprendre que ça s'organisait plutôt pas très bien, et donc les makers sont revenus à une méthode plus classique, c'est-à-dire en mode cellule, demande, offre, demande, groupe Facebook, on prend contact direct. On essaye de valoriser au maximum cet échange, c'est-à-dire de personne à personne. Ça peut arriver que ce soit une infirmière isolée, ça peut être une chef de service qui s'occupe de ses infirmières à domicile ou des aides-soignantes, ça peut être un CPS pour on n'en parlait pas, mais il y a les fossoyeurs aussi qui doivent enterrer les gens et qui sont en contact direct avec la maladie. Voilà, ce sont tant de profils de gens qui sont en fait oubliés par le décret de notre task force nationale et qui font appel à nous un peu en dépit de trouver réponse ailleurs.
Ok, alors je me permets derrière pour faire une petite transition, parce que je crois que là on a fait un peu le tour. De toute façon, on te réinvitera par la suite. Oui, vas-y.
Saluer Andrea qui est là sur le... pas ton Andrea, Damien, une autre Andrea qui est là sur le chat, c'est grâce à elle que j'ai eu connaissance de résistance Covid justement. Voilà.
Et qui nous dit merci d'ailleurs Andrea. Que ce soir pas de discussion sur le BIF ce soir, parce qu'effectivement voilà. Le BIF a été annulé. Alors pour ceux qui savent pas, le BIF c'est le festival de Bruxelles de films fantastiques. Alors je sais plus. Alors
Bruxelles International Fantastic Film Festival, s'il te plaît.
Ah ouais, merci.
qui alors on risque de perdre des viewers, mais c'est pas grave. Qui d'ailleurs ce soir organise une Netflix party avec un film Netflix qui s'appelle Baobali. Donc vous tapez dans Google Netflix Party, ça permet de regarder un film Netflix tous ensemble en groupe quoi, à distance. Et donc ils organisent ça ce soir. Netflix Party. Maintenant. Allez, salut.
Non,
c'est maintenant, c'est à 22h.
Ouais, mais c'est un film Bollywood dans toute sa splendeur qui va piquer les yeux. Hein. Je préviens les gens.
Ah ouais.
parce qu'il y a quelque chose au bif qui pique pas les yeux en général ou
ah ouais, bon truc. Hein.
Ouais, je sais.
Voilà, voilà. Eh ben, okay. Merci beaucoup, Saïd, en tout cas, d'être venu dans l'émission, bah, nous présenter tout ça. Moi, j'ignorais que ça, que, voilà, l'existence même de Résistance Covid. Et merci à Sam de t'avoir invité. Si effectivement il y a des évolutions, n'hésite pas à revenir dans l'émission, nous parler du respirateur homemade et d'autres petites choses que vous arriverez à développer. Oui.
Je laisserai quelques coordonnées s'il y a des bénévoles, des makers. On cherche aussi des personnes qui travaillent dans la livraison, des taximens,
j'ai une question
dans la logistique.
J'ai une question à ce sujet. N'hésitez pas. Je la pose à toi et à Luc aussi, qui a participé à une livraison de production de masques pour Saint-Luc, si j'ai bien vu.
Entre autres.
Ok. Et comment ça se passe ce sera plus simple comme ça. Comment ça se passe Luc, par exemple, toi, tu te dis, j'aimerais produire des masques. Comment ça se passe? Tu prends contact avec Résistance Covid?
Je suis un éternel touriste. Moi,
Attends, je t'entends plus.
Ouais, tu coupes beaucoup, en fait. Ne te rapproche pas, parce que là, ça va faire... Donc, je ne sais pas pourquoi tu coupes, mais... Ou alors, soit en push to talk, ou je ne sais pas. parce que tu coupes. C'est pas grave. Vas-y, tranquille.
Saïd, reste avec nous, hein.
Je suis là.
Ah, cool.
Alors, moi, je suis sur deux groupes. Je suis sur le groupe de Bruxelles, étant de Bruxelles à la base, et sur le groupe du Brabant Wallon en même temps. Donc, je surveille un peu les demandes qui se font dans les deux côtés. Et j'avais une première production de face shield grâce à Monsieur Arius, notamment, qui m'avait envoyé... qui m'avait envoyé par la poste des feuilles de PVC que je pouvais réutiliser. Et finalement, j'ai découvert qu'il y avait un groupe qui se faisait sur Jodogne, et qui produisait des masques aussi, qui pouvait me fournir des feuilles aussi. Donc, j'ai terminé la commande qui devait partir en fait à Bruxelles. Et j'ai été la déposer chez une personne qui regroupait en fait les commandes, qui était une grosse commande. Je pense que c'était... Il y avait le CHU de Saint-Pierre, il y avait plusieurs trucs en même temps.
C'est ça, le CHU de Saint-Luc, on avait 60 visières. Et en gros, comment ça se déroule? C'est qu'il y a un wiki qui est ouvert. Il y a la demande, elle s'inscrit, le maker ou ceux qui captent la demande l'introduisent dans le wiki. Les makers s'inscrivent, disent voilà, moi je m'inscris sur ce projet-là et j'en fais 5. Et je donne mon statut. D'autres, si chacun fait cette opération, on sait savoir combien est en cours d'impression, combien est fini. Et puis quand l'opération commence à se terminer ou quand elle est presque... quand elle est clôturée, on s'organise entre nous pour faciliter le drop, c'est-à-dire on essaie de rassembler de manière plus avec beaucoup de bon sens les pièces chez un maker et qui va soit les déposer, soit un autre maker ou soit quelqu'un d'autre de contact va venir les chercher chez lui. Okay. En gros, c'est toujours en fonction de la demande et des makers qui se sont inscrits dessus. On peut avoir sur un projet, on peut avoir 6 ou 7 makers sur le même projet. Sur d'autres projets, ça va être 2-3, donc ça dépend aussi. Ça peut être beaucoup plus complexe quand il en faut en faire 100 et qu'on est 6 à se coordonner.
Les livreurs n'ont jamais de problème de contrôle par la police
Si, il y a déjà eu des gars qui se sont fait contrôler, mais ils ont montré les visières et les agents de police les ont laissés passer en leur disant merci. Ben,
à propos de ça, je veux dire, là, je suis occupé en la police du Brabant Wallon. Enfin, alors, ça va être envoyé à la police du Brabant.
On t'entend pas.
Ah, je suis de retour. Je ne sais pas.
Oui, voilà. Non, pas. C'est bon, là on t'entend.
Donc c'est les fameux petits, les petits trucs pour accrocher les masques en fait, qui se placent juste ici derrière, qui permettent d'accrocher les masques de protection sur le visage. Pour éviter d'avoir les oreilles qui finissent par être irritées ou saignées même à cause des élastiques. Ouais. Mais ça, quand on travaille par exemple pour la police, on a des demandes spécifiques, comme quoi des couleurs, on peut utiliser n'importe quelle couleur. Il faut qu'il y ait
l'inscrit. C'est dommage.
Tout le monde a déjà proposé le rose, forcément.
Semble qu'on a fait des chez Felchid sur Bruxelles en rose, je pense. Non
j'ai vu passer des trucs avec des... Il y avait des beaux roses bien flash. Donc je doute fort que quand même les forces de l'ordre fassent des problèmes aux gens qui viennent quand même aller déposer des protections bénévolement, d'autant plus, et parfois même pour eux, comme ces genres de trucs-là. Bon, certaines personnes ont des dérogations parce qu'ils dans leur travail ils demandent d'en avoir une. Et bien souvent, on a des gens qui nous disent ah ils m'ont juste contrôlé, ils ont vu, comme tu disais tout à l'heure, ils voient l'effet shield ou ils voient le matos, ils ont compris. Quoi.
Ouais. Mais c'est super utile. Je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler l'objecteur en main, mais en fait ce que les gens font c'est qu'ils mettent un trombone. Ils mettent un trombone à la place, mais avec ce que tu as là en main, en fait, on peut vraiment régler la taille, quoi.
C'est ça.
C'est quand même vachement mieux, ouais.
Ouais.
Strip Mask. Oui, il est disponible, donc si tu en as besoin, tu peux nous demander, on imprimera.
Ah, c'est gentil.
En rose. Ouais,
en rose, ouais.
C'est clair.
Eh bien, chouette. Encore un truc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, du rose pour la police, nous dit Cryogène X. Et pour la police de Boisfort, voilà. Pixelior, voilà. Exactement. Et il y a Nomad Andrea qui dit le mouvement des makers incroyable, faites passer le mot, resistancecovid.com. Voilà, ouais. Super.
Super, votre site super. A été refait d'ailleurs.
Complètement. Ouais, complètement. Ouais.
Il est bien parce que maintenant on tombe directement sur là on peut faire les commandes, c'est pas mal.
C'est ça, directement les commandes, un peu plus bas on peut s'inscrire et vous pouvez voir un peu le catalogue de ce qui est fait. On essaie d'uniformiser, de ne pas avoir 36 modèles pour ne pas se perdre ni pour les aides-soignants ni pour les makers. Qu'on essaye d'être le plus efficace possible.
Et puis on voit aussi avec qui vous collaborez, quoi. On voit tout de suite que vous collaborez avec des CHU et des choses comme ça, et ça crédibilise vachement le projet, quoi. C'est bien.
Ok. Donc voilà, on passe à la suite de l'émission ou vous avez encore des choses à dire?
Non,
je suis désolé, hein, je fais un peu celui qui coupe,
non,
etc.
Non,
mais voilà,
mais...
on a deux heures d'émission et
tu restes avec nous, Saïd.
Tu restes avec nous là?
Je suis là.
Eh ben voilà,
tu restes avec
super.
Nous pour la suite de l'émission. Cool.
Ouais. Alors, je vois que j'ai plein de messages sur le... Il y a quelqu'un qui surveille ce qui est dit sur le Discord ou pas?
Sur le Discord.
J'avoue que je suis sur le Twitch. Hein.
Oui, alors, oui. Bah, moi, j'ai le Twitch, mais je ne peux pas regarder le Discord, sinon je perds
Discord,
tout le monde.
J'ai peur de... J'ai peur.
Alors, je vais aller sur le Discord. Alors.
Ouais, parce que j'ai peur de perdre les gens aussi si je vais sur le Discord.
Sur Discord, moi je vois c'est plutôt calme.
C'est plutôt calme. Bon, et ah oui, mais non, attends. Tu l'as pas, c'est parce que t'as pas l'endroit
non,
où on est censé émettre.
Je vais aller voir pour parler au DJ. Ah oui, d'accord, en fait. Oui, ok, bon. Bon, ben on est reparti pour deux heures d'émission.
Pourquoi? Parce qu'il y a plein de questions.
Non,
il y a plein de questions
en fait,
ou quoi?
Attends, que je regarde. Non, ça va, c'est pas pour notre émission, je pense.
Bah, si
je regarde. Non, ça va.
Ça va, bon. Ok. Okay,
ça écoute bien gentiment.
Ça écoute bien gentiment. Bon, on arrive à court de PLA. On peut en parler aussi. Oui, effectivement, ça a déjà été dit que ça va être chaud. Voilà. Mais que bah, ça finit par arriver quand même. Il y en a encore un peu de stock en Belgique. Quoi. C'est ça, hein, Saïd?
Tout à fait, il y a du stock. Je vais envoyer des liens et j'espère que les auditeurs de Radio Panique vont cliquer et commander de la bobine.
Alors, pour l'instant, on n'est pas directement... Alors d'ailleurs, normalement, on fait ça sur Radio Panique, le 105.4 de Radio Panique. Mais ce soir, vu que c'était une première technique, etc., je n'ai pas streamé vers le serveur de Radio Panique. Donc, on n'est pas en direct sur Radio Panique. On sera en différé. Donc, cette émission sera repackagée pour être diffusée sur Radio Panique. Et merci à Radio Panique d'ailleurs de nous accueillir régulièrement. Ok, et ben merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Saïd d'être resté jusqu'au bout.
Ouais.
Merci à vous, hein, merci à vous.
Voilà, c'était très chouette. Merci d'être venu. Merci à Laurane pour sa première émission. Ça va, ça n'a pas été trop dur?
Non, c'était cool. Franchement, welcome, hein. Quand vous voulez, hein, quand vous voulez, moi je peux faire plein de chroniques musicales.
Merci, ou autre, voilà. Merci Baudouin pour ta deuxième émission.
Avec grand plaisir.
Ouais. Voilà.
Voilà. Parce qu'à 23h30, bah, ça reprend aussi. Hein. Donc, voilà. Donc j'enchaîne.
J'enchaîne après, d'accord. Et puis merci aux chroniqueurs habituels. Merci à Radio Panique qui nous héberge régulièrement, bah, normalement. À badgeek.fr qui héberge nos podcasts. À BXL Geek qui est représenté par deux t-shirts. Voilà. Hop, magnifique ce soir.
Je veux les mêmes.
Et à Comic Prime qui est représenté, fièrement représenté par Ergus ce soir. Voilà. Voilà.
Force et honneur.
Voilà. Et ben merci pour cette émission. On termine avec 5 minutes de retard, ce qui est, ça va. On avait commencé avec 7
minutes. On avait commencé plus tard.
Voilà, on avait commencé plus tard. J'espère
que ça fait tout juste 2 heures.
Ça a plu. Et puis on se retrouve bientôt.